Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, bon courage à ceux qui viennent d'ouvrir les yeux, ceux qui viennent de se réveiller et ceux qui sont déjà au boulot depuis quelques heures. On le sait, il y a des travailleurs de la nuit qui sont avec nous de bon matin et on est ravis de vous accompagner, d'être avec vous à 4h26 en direct tous les jours sur RMC, n'est-ce pas Anaïs Castagna? Bonjour Anaïs.
Bonjour Charles et bonjour à tous.
La responsable du froid, si vous grelottez ce matin, c'est à cause d'elle. Bonjour Géraldine Demory.
Salut tout le monde, c'est pas ma faute, je suis juste le messager moi.
Oui, mais tu nous confirmes que ça va pas s'arranger.
Je vous confirme qu'il fait froid et qu'il va faire froid toute la semaine.
Voilà, on peut s'y préparer, les bonnets et tout, c'est reparti. On est parti même pour quelques semaines de froid là. On peut le dire.
Bah quelques semaines, non, on peut pas l'affirmer, en tout cas. Mais non, on peut pas l'affirmer. On peut avoir un redout encore.
Ah.
Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit.
Mais bon, il fait froid, évidemment, et on va surveiller évidemment ce matin avec Géraldine, notamment les endroits où il y a du verglas, de la neige, etc. On va être très vigilant. Et c'est le message qu'on vous répète, qu'on vous martèle le matin sur RMC. Attention sur la route hein, entre la nuit et le froid. La route est dangereuse à cette heure-ci, donc voilà, vigilance si vous nous écoutez en voiture ce matin. Deux sujets à la une de l'actualité, deux sujets sur lesquels on vous attend particulièrement ce matin au 32-16, car oui, vous le savez, le standard est ouvert. Quentin attend vos appels. D'abord, cette question qu'on vous pose, faut-il régulariser les salariés sans papier qui travaillent aujourd'hui dans les métiers en tension et notamment dans l'hôtellerie-restauration?
La première ministre Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui ses propositions en matière d'immigration devant l'Assemblée. Le gouvernement prévoit notamment la création d'un nouveau titre de séjour pour les métiers en tension. Et justement, les restaurateurs ont à nouveau lancé un appel à la régularisation de tous leurs salariés sans papier ce week-end par la voix du chef Thierry Marx. Quand vous cherchez des pâtissiers ou des cuisiniers et que vous n'en trouvez pas en France, faut bien regarder ailleurs, dit-il.
Bah oui, on n'en trouve pas en France des salariés qui veulent travailler dans la restauration, dit Thierry Marx. Alors est-ce que la solution, c'est de régulariser tous ceux qui en réalité sont déjà dans les cuisines et dans les salles des restaurants aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous allez entendre les politiques qui vont s'écharper sur le sujet, mais il y a la réalité du terrain. C'est vous qui allez témoigner ce matin, évidemment, au 32-16. Faut-il régulariser les sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension et particulièrement dans l'hôtellerie-restauration? C'est vous qui avez la parole tout de suite au 32-16. On regarde aussi vos messages en direct sur l'appli RMC avec Direct Studio. Et puis autre question ce matin, autre question qui inquiète notamment les parents, faut-il s'inquiéter de la pénurie de médicaments?
Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours, le Doliprane pour enfants manque dans certaines pharmacies, conséquence des tensions depuis plusieurs semaines sur les stocks de sa molécule, le paracétamol, et de la demande qui explose en ce début d'hiver alors que la France fait face à une triple épidémie de Covid-19, grippe, sans oublier la bronchiolite.
Ouais, le système de santé sous tension, on parle en permanence, il y a eu ces médecins en grève la semaine dernière, les urgences saturées, les cyberattaques aussi à l'hôpital, et donc il manquait plus que la pénurie de médicaments. Vous l'avez constaté en pharmacie, vous êtes parent, vous avez du mal à trouver du Doliprane qu'on a tous dans les pharmacies à la maison en tant que parent, dans l'armoire à pharmacie, c'est peut-être la base. Je me tourne vers les mamans. Oui, on est d'accord, la boîte rose de Doliprane, on l'a tous, sauf qu'aujourd'hui, on ne la trouve plus, en tout cas dans certaines pharmacies. Est-ce que vous avez été confronté à ces pénuries? Vous venez témoigner ce matin au 32-16. Est-ce que ça vous inquiète plus globalement, là, ce système de santé en France, cette triple épidémie? Est-ce qu'on a peur aujourd'hui d'être malade en France? Cette question aussi, on va se la poser ce matin avec vous au 32-16.
Et puis, on n'oublie pas nos rendez-vous dans Mon Choix ce matin, 5h10. Prendre la défense des personnes bordéliques. Je ne sais pas si ça te concerne, Charles.
Merci de me défendre.
On peut être mal organisé, Charles, et vivre dans un capharnaüm et réussir dans la vie. Tu en es peut-être la preuve. Des études scientifiques montrent que c'est un signe d'intelligence, de créativité.
Merci.
Et je vais tout vous dire.
Merci.
On va aussi sourire grâce au meilleur d'Arnaud Demanche. On retrouvera Anthony Morel pour C'est déjà demain, Manu Le Chip pour l'économie et notre story Coupe du Monde, évidemment.
Sans oublier le coffre de Noël, le coffre RMC avec peut-être la PS5 dedans. On va tout vous dire, comment vous inscrire pour le coffre. C'est un petit SMS au 732-16. Vous connaissez le chemin. On va tout vous donner, tout le détail des cadeaux à gagner dans le coffre de Noël RMC ce matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna. Charles Magnin.
4h41, bon réveil sur RMC, bon courage à ceux qui sont déjà au boulot, de bon matin, ceux qui ont travaillé toute la nuit, et bienvenue si vous venez de vous réveiller, si vous venez d'ouvrir les yeux. Voici la question à la une ce matin, faut-il régulariser les salariés sans papier qui travaillent déjà aujourd'hui dans les restaurants?
C'est la question du jour sur RMC.
Un débat sans vote. Cet après-midi, l'Assemblée nationale va débattre des questions d'immigration. La première ministre, Elisabeth Borne, va présenter les propositions du gouvernement avant une loi immigration attendue au printemps prochain.
Et on connaît déjà les grands principes du texte. Le gouvernement veut être plus efficace en matière d'expulsion. C'est la fameuse question des OQTF, obligation de quitter le territoire français, mais aussi mieux intégrer les personnes réfugiées et celles qui travaillent. Pour l'aspect intégration, le gouvernement souhaite régulariser des travailleurs clandestins via un nouveau titre métier en tension.
Et justement, les restaurateurs sont en première ligne pour demander à être classés parmi ces métiers en tension et donc bénéficier de ce nouveau titre de séjour.
Thierry Marx, président du principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, l'UMI, appelle à une régularisation des salariés étrangers du secteur reconnus pour leurs compétences. C'est ce qu'il a dit dans le JDD dimanche. Il rappelle que 200 000 postes sont pourvus dans la restauration. Pourtant, le secteur ne figure pas sur la liste permettant de recruter du personnel étranger, ce qui est pour lui une aberration. Même chose pour l'hôtellerie. Quand vous cherchez des pâtissiers ou des cuisiniers et que vous n'en trouvez pas en France, faut bien regarder ailleurs, dit-il. Il demande donc une régularisation rapide.
Et c'est d'ailleurs le message qu'avait déjà lancé, il y a plusieurs semaines maintenant sur RMC, le chef étoilé Alain Fontaine.
On se retrouve avec des gens qui peuvent travailler, qui sont capables et compétents, qui effectivement peuvent à tout moment rester sur le trottoir et ne pas rentrer dans nos établissements alors qu'il nous manque du personnel. Ces gens qu'on a chez nous, qui sont soit des anciens apprentis, soit des apprentis, et qui sont en souffrance administrative, on est de facto, comme eux d'ailleurs, on est borderline, évidemment, puisqu'ils ne sont pas vraiment censés travailler, et pourtant, ils ont une feuille de paye, ils payent leurs charges, c'est-à-dire qu'ils participent à la répartition, à la solidarité nationale. Mais on est quand même borderline au niveau de la loi, eux et nous.
Et justement, c'est pour mettre fin à ce flou juridique que les restaurateurs réclament d'être classés parmi les métiers en tension à bénéficier de ce nouveau titre de séjour. Alors, faut-il régulariser ces sans-papiers qui travaillent déjà aujourd'hui dans les restaurants français? Côté politique, forcément, la question divise. Tiens, écoutez Philippe Ballard, il est député Rassemblement National de l'Oise.
On va régulariser des gens qui sont en situation irrégulière. Faut juste avoir présent ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on va régulariser des gens qui devraient être tout simplement expulsés du territoire national. C'est un formidable appel d'air pour une immigration qui est de toute façon incontrôlée. Mettez-vous à la place de mafias qui organisent ce trafic d'êtres humains. Ils vont dire, regardez en France, on régularise des gens qui sont dans l'illégalité. Donc c'est un appel d'air terrible que s'apprête à faire le gouvernement.
Bon, on sent que Philippe Ballard n'est pas vraiment convaincu. La réponse du député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefèvre.
Les principaux responsables de l'appel d'air, c'est les employeurs qui aujourd'hui sont absolument pas scrupuleux et qui font en sorte d'employer des gens sans droit ni titre et qui, dans le fond, font appel à une main-d'œuvre qui va venir en France parce qu'ils savent qu'ils pourront l'exploiter. Ils sont maintenus dans l'illégalité, ils sont maintenus dans une grande précarité alors qu'ils bossent. Donc il s'agit de leur donner un titre de séjour d'un an, mais en aucun cas il s'agit d'une régularisation massive comme veut le faire croire le Rassemblement National.
Alors, vous entendez ce débat politique. Il y aura un débat sans vote cet après-midi à l'Assemblée sur ces questions d'immigration. Et c'est vous maintenant qui allez nous dire au 32-16 ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut régulariser ces travailleurs sans papier qui sont déjà présents dans les cuisines, des restaurants un peu partout en France? On entend l'appel des restaurateurs. Vous venez nous dire, vous, ce que vous en pensez ce matin. Tiens, je vois que Rémi nous a appelé au 32-16. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Rémi, qu'on connaît bien, fidèle auditeur du côté de Grenoble, c'est ça Rémi?
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question, de ce nouveau titre de séjour que voudrait créer le gouvernement pour les métiers en tension?
Écoutez, fondamentalement, je ne suis pas contre le fait d'accueillir les gens qui sont issus d'immigration parce qu'ils viennent travailler, etc. De toute façon, le but de chaque personne qui veut venir vivre ici, c'est d'intégrer. Mais moi, ce qui m'épate avec ce gouvernement et avec une bonne partie de notre classe politique, c'est comme l'immigration est quelque chose de quasiment honteux, jusqu'à ce qu'on ait besoin de ces gens-là pour faire les travaux que les Français ne veulent pas. C'est quelque chose qui, honnêtement, je trouve révoltant, parce que ça veut dire qu'on accepte d'avoir de l'immigration seulement à partir du moment où ils veulent faire le boulot que nous on veut pas faire.
C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie en fait. Si on revient, c'est une immigration de travail quoi. C'est ça qu'on entend.
Donc on admet que c'est un travail que nous on veut pas faire parce qu'il est indigne en termes de conditions et ou de rémunération.
Oui.
Mais on admet que les immigrés ils sont bien bons pour le faire quoi.
Mmh. C'est un peu ça le message.
Ça choque personne, quoi. Je veux dire, c'est normal.
C'est quoi la solution, Rémi? C'est vous préférez qu'on donne la priorité aux Français, comme on dit, ou en tout cas à ceux qui sont aujourd'hui inscrits à Pôle emploi en augmentant les salaires?
Mais en fait, il n'y a pas besoin de donner la priorité à qui que ce soit. Il faut faire en sorte que ces jobs deviennent des jobs décents, que les gens puissent payer les gens correctement, que les horaires deviennent corrects, et vous aurez autant d'immigrés que de Français qui vont aller travailler comme dans n'importe quel boulot. C'est tout. Le reste, c'est pour créer une précarité, parce que les gens qui sont immigrés vont être obligés d'aller dans ces boulots-là, puisque ailleurs on n'en aura plus, et les Français qui doivent travailler devront faire les autres boulots, parce que ceux-là, ils trouveront plus de place. Donc en fait, à part à long terme embêter tout le monde, sauf les patrons bien sûr, ça sert à rien.
Ouais. Donc on vous sent pas convaincu.
Non.
Non, mais donc vous êtes contre ce type de séjour spécifique en tout cas.
En attendant, on n'a pas réglé le problème de la pénurie de main d'œuvre.
Oui, mais pour régler le problème de la pénurie de main d'œuvre, quand on voit qu'il y a des gens qui sont disponibles pour faire ce genre de boulot, mais qui demandent à être soit traités correctement, soit payés correctement, soit les deux. La priorité d'un gouvernement dans un pays comme la France, ça devrait plutôt être ça.
Rémi, en tout cas, merci d'être venu défendre cette position. Vous êtes contre ce principe d'un titre de séjour spécifique, si j'ai bien compris, pour les métiers en tension, parce que pour vous, ça crée une forme de précarité, si j'ai bien compris. Ça tire les conditions de travail vers le bas. Vous, c'est pas l'argument de l'appel d'air là, qu'avance le Rassemblement National qui vous inquiète.
Non, absolument pas. Ça, c'est toujours les mêmes bêtises, toujours du même côté que ça vient. Non, la question de l'appel d'air, de toute façon, l'appel d'air, c'est toujours la même chose. Quand après la guerre, il a fallu reconstruire le pays et que c'était que les Italiens et les Portugais, l'appel d'air, ça dérangeait plus les gens de droite. Et les gens de droite sont jamais dérangés par le fait d'avoir du boulot pas cher par des immigrés. La preuve, il y en a plein les restaurants aujourd'hui, ils disent rien. Hein, mais dès qu'on va faire une loi pour ça, ils sont obligés de dire non, sinon ça colle pas à leurs idées. Mmh. Enfin, c'est d'ailleurs, il y a un député RN qui a été épinglé là-dessus récemment.
Oui, c'est vrai.
Chez lui,
ça arrive. Ouais. Mais c'est intéressant, Rémi, de voir que vous vous opposez pas vous au principe de l'immigration, etc. C'est pas pour qu'il y ait moins d'immigrés que vous vous opposez à ce type de séjour. C'est pour dire, ça va tirer les conditions de travail de tout le monde vers le bas, en fait.
Voilà.
J'ai bien compris votre position, Rémi. On va voir si tout le monde est d'accord avec vous ce matin ou pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette régularisation des travailleurs sans papier? Parce que Rémi, moi, je comprends que vous êtes contre le principe, mais vous n'êtes pas contre la régularisation de ces personnes-là, de ces salariés qui sont déjà aujourd'hui dans les cuisines des restaurants. Vous êtes pour qu'on les régularise, mais pas forcément avec ce statut particulier de travailleurs de métiers en tension, en fait.
Bien sûr que non. Si c'est des mecs qui viennent et qui travaillent, moi, je suis d'accord pour qu'on les garde. Il y a aucun problème, avec plaisir même.
Ok, écoutez, le message est passé, Rémi, on va voir si tout le monde est d'accord ou pas ce matin, mais vous avez le mérite de lancer le débat sur RMC, cette question autour des métiers en tension, ce débat sur l'immigration qui s'invite aujourd'hui à l'Assemblée, et donc cet appel des restaurateurs qui disent, permettez-nous de faire travailler, ils travaillent déjà, de régulariser en tout cas, tous ces salariés sans papier qui sont aujourd'hui dans les cuisines et dans les salles des restaurants un peu partout en France. Merci Rémi d'être passé au 32-16 ce matin, vous travaillez dans l'entretien, c'est ça, du côté de Grenoble, Rémi, et donc levé de bonne heure, on vous souhaite un bon courage pour la journée de boulot.
Merci à vous aussi.
À bientôt au 32-16, Rémi. Merci d'être passé ce matin sur RMC pour venir ouvrir ce débat sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Vous n'hésitez pas, comme Rémi, d'accord ou pas avec ce que vient de dire Rémi, qui dit, moi je suis pour l'immigration, pour régulariser, mais pas pour ce statut spécifique de travailleurs des métiers en tension. Vous n'hésitez pas, vous aussi, à prendre la parole ce matin sur cette question au 32-16. Et puis, à 4h50, beaucoup de choses à vous annoncer. La suite du programme, c'est le choix d'Anaïs, juste après 5h.
On va parler des personnes bordéliques qui se font taper sur les doigts depuis tout petit, pourtant ce serait une preuve d'intelligence et de créativité, c'est la science qui le dit.
Ouais, on va aussi vous faire gagner des beaux cadeaux avec la voix du jour, vous savez qu'on récompense les leftos, ce sera juste après les infos de 5h, mais tout de suite c'est l'heure des histoires de toute la bande de Charles Matin qui vient s'installer autour de la table, vous raconter toutes les infos en plus qu'elle a repérées pour vous faire sourire. Il sera question de princesse Disney, on sera aussi dans la jungle, on va parler aussi d'armes à feu, on sera chez une voyante, une voyante un peu particulière, elle voit dans les asperges. On va tout vous expliquer dans un instant sur RMC.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Oui, de quoi vous faire marrer à la machine à café ce matin avec les collègues. Toute la bande a repéré des infos insolites un peu partout. Et quand je dis toute la bande, c'est évidemment Anaïs qui est là. Quentin Dubois, Quentin du Standard vient de nous rejoindre.
Bonjour. Salut, Quentin. À tous.
Anthony Kaczmarek est avec nous aussi cette semaine à la place d'Arthur Asquin. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Bienvenue autour de la table. Tu vas voir, on est encore plus sympa qu'on en a l'air.
Bah oui.
Notamment Géraldine de Maury. Ça va Géraldine?
Très bien.
À toi l'honneur. Tu nous emmènes ce matin dans la jungle.
Et oui, ils sont 20 Français en route pour l'aventure. Partis de Paris, ils sont arrivés il y a quelques heures à peine en Guyane française. Leur but, survivre 40 jours dans la jungle.
Bon, je vous rassure, hein. Là, il va pas y avoir de
d'abord,
trahison.
Rassure-nous, c'est la fin de ton imitation
c'est
de Denis Brogniart.
C'est clair. C'est pas mal.
C'était une tentative, il fallait tenter.
J'ai essayé, je savais que ça allait vous faire marrer.
C'est la fin de l'aventure pour l'imitation.
En tout cas, là, dans mon histoire, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'entente secrète ou d'élimination, en tout cas, normalement. Je vous parle de 10 hommes, 10 femmes, tous volontaires, tous venus d'horizons différents. On a des infirmiers, des militaires ou encore des informaticiens. En réalité, l'objectif est scientifique parce que c'est un test pour voir comment réagit le corps humain dans des conditions climatiques extrêmes, dans un contexte de réchauffement climatique. Donc les aventuriers seront suivis tout au long de l'expédition pour contrôler leur état de santé, mais aussi évaluer leur mental. La jungle, en fait, c'est la première étape. Ensuite, les mêmes volontaires vont passer 40 jours en Laponie, en mars prochain, oui. Puis 40 jours en Arabie Saoudite. Et comme ça, eh bien, ils vont bien passer par les trois climats les plus intenses de la Terre. Je sais pas, vous auriez signé, vous, pour partir comme ça?
Ah bah, il suffit de prendre la ligne 13 régulièrement à Paris. On a déjà une forme d'aventure. Voilà, il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour vivre dans des conditions extrêmes. Mais bon, oui, non, moi, ça m'aurait plu, je crois. De tester. Non, puis en plus, c'est pour la science.
Bah, c'est pour la science.
Tu voyages,
ouais.
Pas mal.
Bah ouais, Laponie, c'est bien. Hein. Tu voyages, tu vois la Laponie, l'Arabie Saoudite.
La et la Guyane française. Ah, je serais partie tout de suite. Hein. Je serais partie tout de suite. Mais c'est vrai que les conditions ne doivent pas être faciles.
Il y a beaucoup de bêtes. Hein.
Et ils sont rémunérés ou c'est juste. Ils sont défrayés peut-être. Parce que je vais poser quelques jours de congé pour avoir un peu de temps pour faire ça. Mais on va suivre cette aventure, tu nous diras évidemment qui arrive en finale, qui tient sur les poteaux, tout ça, on sait sur quoi.
Géraldine,
on passe à Quentin Dubois. Quentin, avec toi, on va parler d'armes à feu parce qu'on en a beaucoup parlé sur RMC la semaine dernière. Le ministère de l'Intérieur a organisé une opération nationale, une collecte des armes non déclarées un peu partout en France et il y a eu quelques surprises.
Oui, alors il y a eu 150 000 armes au total déjà de récupérer, dont 140 000 armes à feu uniquement. C'est ce que les Français ont rapporté lors de la collecte. Le principe est simple, l'État ne pose pas de questions sur la provenance des armes, héritage, trouvailles ou autre. Peu importe. Alors, on a eu les basiques, comme les fusils de chasse ou les armes blanches, quelques armes de collection, des épées même.
Ah oui?
Et puis, certaines armes qui ont un petit peu causé la panique. Comme à Quimper ou dans un centre de collecte, donc il y a eu une évacuation. Les démineurs ont dû intervenir car un homme avait apporté une grenade tranquillement. Il y a aussi une dame qui est venue pour prévenir qu'elle avait un obus posé sur sa cheminée. J'imagine que c'était pour décorer. On s'en est suivi une intervention chez elle pour le retirer en toute sécurité.
Oui, je comprends qu'il y a eu un peu de panique quand elle a fait venir. J'ai un obus sur la cheminée. Oui. Bon, et alors, tiens, justement, bon, il y a eu certes un obus, une grenade, mais toutes ces armes récupérées là, c'est 150 000 armes. Qu'est-ce qu'elles vont devenir?
Alors la plupart vont être détruites, ils vont quand même vérifier si elles ont été utilisées dans un crime. Et puis les armes de collection seront confiées à des musées. Si vous êtes en Île-de-France, vous avez jusqu'à la fin de la journée pour rendre ou enregistrer vos armes non déclarées sans s'exposer à des poursuites. Donc il faut en profiter.
Et bah donc Anthony Kazmarek, tu as jusqu'à ce soir pour rendre tes grenades, voilà, note-le.
Je ne manquerai pas.
Et puis tiens, c'est à ton tour Anthony, toi tu nous emmènes chez une voyante anglaise un peu particulière.
Regardez dans la boule de cristal. Oh, je vois votre illustre nom.
Je connais mon nom.
Elle s'appelle Jemima Packington, elle a 66 ans et elle vit au sud de Birmingham en Angleterre et elle a la particularité de lire l'avenir, non pas dans une boule de cristal, mais dans des asperges. Des asperges.
Ça, c'est technique. Voilà. Que comment elle fait?
Ah bah rien de sorcier. Il suffit simplement de jeter au-dessus d'un drap blanc une botte d'asperges en l'air et de les laisser retomber. Et en fonction de la forme que prend le tas d'asperges, Jemima peut prédire l'avenir de notre planète.
Asperge divine, pour nous tu n'as que des appâts.
La voix de Jean-Pierre Coff, donc, les prédictions de l'asperge divine seraient justes selon elle à 75, voire 90% pour les meilleures années. Et pour 2022, elle avait quand même prédit la mort de la reine Elisabeth II, chapeau, de grosses tensions internationales.
La cote n'était pas hyper...
Et aussi, et aussi la poursuite de la pandémie de Covid, là non plus, hein, pas beaucoup
d'erreurs. Ok, super.
Mais plus étonnant, elle a prédit les résultats de la Coupe du Monde de foot et Jemima annonce la victoire de la Croatie. Alors, après Paul le Poulpe, voici peut-être Serge l'asperge.
Mais c'est pas impossible, la Croatie est toujours qualifiée. Donc
effectivement.
Pas,
mais ça marche que pendant la saison des asperges.
C'est ça.
Un peu limité quand même.
Mais oui, lire l'avenir dans les asperges. Bon, bah pourquoi pas, sans transition. Anaïs, on va passer au journal Les Échos qui publie, tiens, la liste des plus gros succès de Disney au box-office mondial.
Oui, le top 10 valide totalement les choix de Disney ces derniers temps, qu'a racheté Marvel et Lucasfilm, puisque 4 Marvel figurent dans le haut du classement. Avengers Endgame, numéro 1, 2,8 milliards de recettes. En deuxième position, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. On retrouve aussi le film Le Roi Lion. en image de synthèse, film qui a extrêmement bien marché au cinéma, un autre Star Wars et le film d'action Black Panther.
Mais en fait, il n'y a pas de dessin animé dans ce top 10?
Si, il y en a deux. Lesquels, à ton avis? À votre avis d'ailleurs.
Je sais pas.
Non, c'est quoi? Il faut que ce soit quel.
Allez, on se lance. On se lance. Bah, bon, récent.
Moi, j'ai vu la famille.
La famille Madrigal.
Ouais.
Non, aussi, non, t'as failli, Géraldine, la Reine des Neiges. Évidemment. Et c'est le 2, le plus gros carton de Disney en matière de dessin animé. Ils ont généré plus de 2 milliards de recettes à eux deux. C'est pas fini puisque Avatar va bientôt sortir. Ce sera le 16 décembre.
Ouais, ça va être l'événement au ciné de ce mois de décembre.
On va en reparler, c'est sûr.
La sortie de la suite d'Avatar, un des
Avatar
plus
2,
de
ouais.
L'histoire, Avatar 2. À suivre donc à 4h58 sur RMC. Bah, il fait un temps à aller se réchauffer dans une salle de cinéma.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h10, bon réveil sur RMC. C'est l'heure de l'info en plus dénichée par Anaïs.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Anaïs, on peut être bordélique et réussir dans la vie. D'après la science, le désordre serait même un signe d'intelligence.
Oui, c'est ce que montrent plusieurs études que j'attends depuis l'âge de 4 ans, en fait. Âge auquel mes parents ont commencé à rentrer dans ma chambre en hurlant littéralement. En grandissant, mon père m'a dit très sérieusement, chérie, t'as plein de qualités, mais si t'es pas un minimum organisé, tu n'y arriveras jamais. J'étais pas convaincue, mais j'avais pas d'argument solide à lui rétorquer. Eh bien, ça y est, je le tiens. Papa, écoute bien. D'après plusieurs études scientifiques, vivre dans une maison en désordre encourage la créativité.
Dites-moi pas que c'est pas vrai!
Des chercheurs américains ont fait un test sur deux groupes de personnes. Le premier était appelé à se rendre dans une pièce en désordre et le second dans une pièce bien rangée, comme on en voit pas mal sur Insta ou encore dans les catalogues IKEA. Ils les ont fait bosser sur un sujet et le groupe qui a eu le plus d'idées intéressantes était le groupe des bordéliques. Ah. Ils étaient plus originaux, moins conventionnels.
J'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort.
Mais alors pourquoi les bordéliques seraient-ils plus créatifs?
D'abord parce qu'on est entouré de tout un tas de choses qui nous inspirent. Les notes de mes chroniques de la semaine dernière, les lettres de ma grand-mère, les bouquins que j'entasse sans jamais les pouvoir les lire, les tétines de ma fille, les factures d'Enedis. Alors que les personnes bien organisées n'ont rien sous les yeux, tout est rangé dans des dossiers, dossiers factures, dossiers impôts, dossiers boulot, etc. Et puis parce que les bordéliques considèrent que le rangement est une perte de temps. Bah oui Charles, tout le monde n'est pas Mary Poppins là, à tout ranger on a un claquement de doigts.
Et chaque tâche peut devenir, si on l'humeurait plaisir, tous les soupirs valent
le rangement, ça prend du temps et les bordéliques ne veulent pas le gâcher pour ça. Ils préfèrent en profiter pour réfléchir, par exemple.
Bah, on peut aussi réfléchir tout en rangeant.
Bah, ton esprit est occupé à chercher le dossier rose pour ranger les factures de téléphone, tu vois, ça paraît pas grand-chose, mais j'en connais qui ne s'embêtent pas avec ça. Einstein était un vrai bordélique, par exemple, son bureau un Capharnaüm, et ça l'a pas empêché de réussir.
Oui, mais alors, ceux qui rangent sont aussi plus efficaces, ils passent pas des heures à chercher la bonne feuille, le bon courrier, etc.
Ouais, c'est vrai que moi, je mets parfois un peu de temps à retrouver mes affaires. Quoique, les bordéliques arrivent souvent à se retrouver dans leur bazar. Le pire, c'est quand quelqu'un vient ranger tes placards. Ah oui. Alors là, t'es totalement perdu et tu mets des mois à retrouver tes repères. Mais je reconnais une chose, cela dit, on peut éprouver du plaisir en rangeant, le sentiment du devoir accompli. D'ailleurs, dans une étude publiée en 2020, eh bien, cette étude montrait que 9 Français sur 10 se sentaient mieux après avoir rangé. 3, un tiers affirme que ça permet de remettre de l'ordre dans leur vie.
Donc si j'ai bien compris, il faut être bordélique, mais pas trop.
Voilà.
C'est ça, il faut un bordel bien rangé. Et de temps en temps, faire un vrai rangement, ça fait du bien au moral.
Ouais, ouais, ça te résume bien, non?
Ça me résume bien, oui, ça me va parfaitement. Ouais. Ouais, non, mais moi aussi, je suis dans un bordel dans lequel je m'y retrouve, mais il faut pas qu'on y touche. Voilà. Touche pas à mon bordel. C'est un peu le message ce matin qu'on voulait partager avec vous, avec cette étude qui vient nous conforter dans notre joyeux bazar avec Anaïs. À 5h13 sur RMC, on revient à cette question à la une de l'actualité. Cet après-midi, les députés à l'Assemblée vont débattre des questions d'immigration. Elisabeth Borne, la première ministre, va leur présenter les pistes du gouvernement sur la question. Alors, le gouvernement veut, renforcer les expulsions, les fameuses OQTF, mais d'un autre côté, il veut aussi favoriser la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On pense particulièrement à la restauration. On a vu le grand chef Thierry Marx, le nouveau patron de l'UMI, dire il faut absolument régulariser tous ces sans-papiers qui travaillent déjà aujourd'hui dans nos cuisines, dans nos salles de restaurants. Et ça vous fait réagir comme Stéphane qui a composé le 32-16 depuis la magnifique ville de Nice. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charles, bonjour Anaïs.
Bonjour chauffeur-livreur, réveillé de bon matin avec RMC.
Voilà.
Et ça vous a fait réagir cette idée d'un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension, de dire voilà, je sais pas, dans le BTP, dans la restauration, on manque de bras. La réalité de la France d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de postes dans lesquels ce sont des sans-papiers qui travaillent, mais qui sont sans-papiers, il faut les régulariser. Et vous Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée?
Moi je trouve que c'est un peu la facilité, parce que des métiers en tension, il y en a beaucoup. Moi aussi dans le transport, on a du mal à recruter. Donc je veux dire, en fait, tous les métiers un peu pénibles, on va les mettre sous tension. Et je sais pas, il y a 6 millions de chômeurs, il y a des jeunes qui trouvent pas de boulot. Donc je pense que c'est un peu la facilité. On devrait faire des formations, mieux rémunérer, c'est un fait. Donc voir du côté des charges patronales pour les répertorier sur les salaires, enfin trouver d'autres solutions que de parce que là il y a aucune certitude qu'une fois régularisés ils vont garder leur poste aussi, hein. Ils sont pas plus bêtes que les autres, donc je veux dire c'est un peu la facilité. Je trouve que c'est vrai que bon, il y a des métiers plus difficiles que d'autres, mais dans ce cas-là il fallait soit faire donc, des études, faire un boulot plus facile, mieux rémunéré, mais malheureusement on peut pas tout avoir.
Je vais le dire différemment, pour vous Stéphane, il faut augmenter les salaires pour que les Français, ou en tout cas les personnes en situation régulière, acceptent les métiers pénibles.
Mais bien sûr, bien sûr. Ça part de là, pour être plus attractif. Déjà, il y a quand même pas mal d'évolutions de la restauration. Maintenant, ils ont quand même 2 jours d'affilée de repos. Ils ont quand même, les salaires ont déjà quand même évolué. Et après...
Oui, mais il y a aussi une réalité de ces gens. Tous les restaurateurs disent, attendez, nous, ça fait des années là qu'on a des apprentis, on les a formés, ils travaillent très bien, il n'y a aucune raison de les expulser, on a besoin d'eux et ils bossent bien et il faut leur filer un titre de séjour.
Oui, mais pourquoi on ne trouve pas des jeunes qui sont déjà sur place? Comment se fait-il qu'il y ait des gens sur place alors qu'il y a plein de personnes qui ne trouvent pas de boulot? Comment se fait-il que ces gens-là ne postulent pas? Et c'est ça. Donc finalement, ils vont mieux rester à la maison. Enfin, je ne sais pas. Moi, il y a un petit souci là, parce que il y a des gens qui manifestent parce qu'ils n'ont pas de boulot.
Oui, donc c'est une mauvaise solution en tout cas de régulariser ces travailleurs sans papier.
Moi je trouve que c'est une facilité, voilà, c'est une facilité. Il faudrait trouver d'autres solutions, soit sur la formation, sur les salaires, c'est un fait, puisqu'il y a des contreparties, ils travaillent les week-ends, ils travaillent souvent tard le soir. Donc ça c'est normal qu'il faut mieux rémunérer, mais je veux dire c'est trop facile. Et puis comme je vous répète, on n'a pas une certitude qu'une fois régularisés, ils vont garder leur poste. Et puis
tout à l'heure avant 5h, Rémi nous disait au 32-16, il faut les régulariser, mais pas forcément uniquement dans les métiers sous tension. Voilà, il faut les intégrer, etc. À l'inverse, on a le Rassemblement National qui dit non, il faut surtout pas les régulariser parce que sinon ça va créer un appel d'air. Vous en pensez quoi, vous, Stéphane?
Ça fait partie aussi certainement de petit appel d'air. Après, je pense que l'accent, il faut surtout le mettre sur la formation des jeunes qui n'ont pas de boulot déjà ici en France. Pour qui justement s'intègre à la société et travaille. Oui. Et tout ça, métier sous tension, ça veut dire métier difficile en fait à faire. Donc je veux dire, on peut pas malheureusement, il faut bien les faire ces boulots là.
Donc priorité aux millions de Français qui sont inscrits à Pôle emploi aujourd'hui, y compris pour ces métiers en tension et ces métiers pénibles. C'est votre message ce matin, Stéphane. Merci d'être venu le partager avec nous au 32-16. On vous souhaite bon courage pour la journée de boulot. Je sais pas où vous en êtes là. C'est le début des livraisons ce matin?
Oui, ça y est, c'est le début. Ça fait une heure que j'ai commencé, donc c'est encore le début.
Bon, et rassurez-moi, il fait pas encore trop froid à Nice, hein, parce que nous, on est quasiment à zéro. Vous, ça va encore là?
Non, nous, on a 7.
Ouais, mais c'est pas mal. Et ça monte dans la journée. Là, on repasse au-dessus des 10 et tout dans la journée.
C'est ça. On arrive à la journée.
Et profitez-en. Profitez-en pour nous, Stéphane. Voilà. Merci pour ce petit coup de fil chaleureux de bon matin. Vous n'hésitez pas, vous faites comme Stéphane, d'accord ou pas. Venez nous dire ce matin, vous qui travaillez peut-être dans ces secteurs du BTP, de la restauration, est-ce que ça peut tenir sans ces travailleurs sans papier que les patrons demandent à régulariser? Est-ce que les Français sont prêts à prendre ces métiers pénibles? Vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, évidemment, puisque c'est le débat aujourd'hui à la une à l'Assemblée nationale. À 5h18 sur RMC, dans un instant, on va se détendre un peu. On va se marrer avec l'ami Arnaud Demanche qui va nous faire sourire tous les matins sur RMC.
RMC, Charles Matin.
RMC, tous les jours de manche.
Le gouvernement Arnaud qui a dévoilé une série de conseils en cas de coupure d'électricité cet hiver.
Oui, alors là, il n'y a plus vraiment de mystère. On va y avoir droit, hein, ça y est. Le gouvernement va être dirigé par Jacouille la Fripouille cet hiver.
Jour. Nuit. Jour.
Jour. On y a droit en studio.
Nuit.
Ils étaient de la lumière. Bon, alors Olivier Véran a été très clair pendant votre interview la semaine dernière. Je dis, il n'y aura pas de coupure d'électricité avec une petite nuance subtile.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. On pourrait être amené à couper pendant une heure ou deux heures l'électricité dans certains endroits.
Voilà, il n'y aura pas de coupure, sauf quand il y aura des coupures. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de problème d'énergie. Sauf quand il y aura, bien sûr, des problèmes d'énergie. En fait, il y a le bon ministre et le mauvais ministre. Le mauvais ministre, bon, il y a des problèmes d'électricité, il coupe le courant. Alors que le bon ministre, il y a des problèmes d'électricité... Bon, il coupe le courant, mais c'est un bon ministre.
Un mot, Arnaud, de la grève SNCF, des nouveaux préavis qui sont posés pour les vacances de Noël.
Oui, alors vous le savez pas, mais depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans mouvement social à la SNCF. Oh. C'est un vrai chiffre. Franchement, la SNCF, si vous m'écoutez, vous voulez pas faire une bonne grève une bonne fois pour toutes avec tout dedans? Ça fait 70 ans que vous êtes en grève tous les 15 jours. Est-ce qu'il reste même des trucs à demander? S'il en reste, mettez tout dans la même grève parce que là, vraiment, c'est relou. Celle-là, elle est due aux contrôleurs.
Ouais.
J'ai lu dans la presse que les syndicats avaient dû les calmer, refroidir leurs ardeurs, leur expliquer que le timing était pas bon. C'est-à-dire que quand même la CGT en est à t'expliquer que t'es chiant, c'est vraiment crabuse, là.
T'exagères. Tu peux pas faire grève.
En tout cas, la SNCF essaye de positiver auprès des usagers. Mesdames, messieurs, je suis Ludovic, votre chef de bord, et je suis actuellement en grève. Donc aujourd'hui, je ne contrôlerai pas vos billets, mais je serai votre coach sportif. La SNCF vous propose son programme de remise en forme, cardio training. Musclez vos cuisses en montant et descendant des escaliers Gare du Nord, au rythme des trains qu'on annule, puis qu'on remet, puis qu'on annule. Travaillez votre cardio en courant dans les couloirs pour être le premier à choper un taxi. SNCF, c'est sport, Noël, cardio, fitness. Et avec notre programme, une grève de fer pour des muscles d'acier, un cours de Krav Maga vous est offert, afin de repousser les autres usagers et réussir à monter dans l'unique wagon qui roule. Alors, merci la grève et merci la SNCF. Et oui, Apolline, on va pouvoir bouffer du gras tout Noël, se faire une orgie de raclette, tous ensemble autour de cette table.
Dans
sauf Manu,
cas-là.
Qui est végétarien maintenant. On est désolé, mon ami.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure, 7h20, 8h20, en direct dans Apolline Matin. Il est 5h26, c'est l'heure de vous récompenser.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Samir qui a été le plus rapide pour jouer à la voix du jour. Salut Samir.
Salut, comment ça va?
Nous, ça va très bien. Chauffeur de bus RATP, l'un des derniers. Alors, en tout cas, il en manque. Samir, réveillé de bonne heure pour jouer avec RMC. Vous savez ce qu'on va faire, Samir? On va vérifier.
Oui, il suffit de reconnaître la voix de cette personnalité pour gagner le cadeau. On va rediffuser la voix entendue juste après le journal de Marguerite et on aura votre réponse dans la foulée.
Je pense que l'équipe de France est parmi celles qui manquent le plus de courage, là, en l'occurrence. Ils sont pleutres. En tous les cas, l'équipe de France ne fait pas preuve de courage, là, dans cette Coupe du Monde.
Alors, Samir, qui trouve que les Bleus sont pleutres?
Sandrine Rousseau.
Bravo, Samir. Vous avez
gagné.
Sandrine Rousseau, la députée écolo, qui sera tout à l'heure l'invitée du face-à-face avec Apolline de Malherbe à 8h30 sur RMC et BFM TV. Mais Samir, surtout, Sandrine Rousseau vous permet dès maintenant de gagner
un matelas gonflable, marque Bestwell, matelas Fortec, la solution idéale pour recevoir vos proches, par exemple.
Et oui, un super matelas gonflable qu'on vous envoie du côté du Val-de-Marne. C'est ça, Samir?
C'est ça.
Eh bien, vous quittez pas. On va prendre vos coordonnées hors antenne et on vous envoie votre cadeau, Samir. Et puis la voix du jour qui revient évidemment demain dès 5h pour récompenser les leftos. Et à 5h27, le journal approche. Mais d'abord, l'info bonus. Et quelle info, Anaïs? Francky Vincent, nommé chevalier des arts et des lettres.
Distinction qui vise à récompenser les personnes qui sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Le ministère de la Culture a donc estimé que Francky Vincent, auteur et compositeur guadeloupéen de 66 ans, et sa chanson Alice ça glisse, devait recevoir cet honneur.
Alice ça glisse
au pays des merveilles.
Bravo Francky.
Je sens tes groseilles.
Alice ça glisse.
Des merveilles.
Bravo Francky.
C'est du savon de Marseille.
C'est
C'est du savon de Marseille. Ouais. Mais citons les grands auteurs, les groseilles, tout ça.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a vendu des centaines de milliers de disques, hein, Francky Vincent, dans l'Hexagone. L'information a été publiée dans un arrêté ministériel du 25 novembre.
On peut citer tous les tubes, hein, les fruits de la passion, Lisa Glisse, Tu veux mon zizi, et donc Francky Vincent.
Il tenait à le citer.
Nommé chevalier des arts et des lettres.
Il est en boucle sur ça depuis 2 heures.
Oui, de Francky Vincent à Géraldine Domori, il n'y a qu'un pas de zouk qui nous amène tout de suite à la BDO.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
5h42 sur RMC. Alors faut-il s'inquiéter pour notre système de santé?
C'est la question du jour sur RMC.
Et oui, si je vous fais la liste, elle fait un peu froid dans le dos. Ce matin, inquiétude autour du système de santé. Depuis quelques semaines, on parle de cyberattaques sur les hôpitaux. On parle aussi, tiens, de cette triple épidémie, la grippe, la bronchiolite, le Covid. On a aussi des urgences saturées. La semaine dernière, ce sont les généralistes, les médecins de ville qui se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Et puis aujourd'hui, on ajoute à tout cela la pénurie de médicaments.
Oui, fin novembre, les médecins ont mis en garde contre un manque d'amoxicilline, l'antibiotique le plus utilisé chez les enfants, le plus prescrit, destiné à lutter contre une série d'infections comme les otites. Mais d'autres molécules manquent aussi, comme le paracétamol, molécule du doliprane pour enfants. Notamment, l'ANSM a demandé aux Français de ne pas constituer de stock. Les pharmaciens peuvent délivrer une quantité de paracétamol inférieure à celle qui figure sur les ordonnances. Et pour éviter les ruptures, les exportations sont également interdites.
Ouais, des ruptures de doliprane, notamment pour enfants, qui posent beaucoup de questions en ce moment en pharmacie. Reportage Romain Poiseau.
Après 5 pharmacies à chercher du doliprane en stick pour son fils de 4 ans, soit d'une mère de famille abandonne.
Ces ruptures partout, impossible d'en trouver. À défaut, je vais prendre un sirop, mais je fais avec. Mais en ce moment, il y a pas mal de maladies, de virus qui traînent et c'est là qu'on en a le plus besoin.
Jérôme, lui, se précipite sur les quelques sachets de doliprane qu'il a pu trouver.
C'est un peu comme dans les grandes surfaces, on stocke pour être sûr de ne pas manquer.
Sur 20 références de doliprane, il n'en reste aujourd'hui que 3 à la vente en pharmacie.
Le doliprane 500 comprimé, 1000 comprimés et du sirop.
Comment expliquer ces pénuries? Bruno Felous est pharmacien à Levallois-Perret.
La première raison, c'est la forte demande qui est hivernale. Deuxièmement, il y a 3 ans, on a dit à tout le monde qu'il fallait prendre du doliprane pour le Covid. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais les gens, c'est resté dans l'inconscient collectif. Plus des excipients qui sont manquants à travers le monde. Et on en demande toujours plus. Forte demande, faible fabrication.
Alors il le rappelle, pour contourner la pénurie de doliprane, il suffit juste de ne pas faire la fine bouche.
Non, pas défaire les dents, je préfère du doliprane.
Il existe d'autres marques de paracétamol tout aussi efficace.
Mais oui, il y a des alternatives, l'Advil, les Feralgan. Et tiens, justement, on parlait à l'instant des raisons de ces ruptures de stock, de cette pénurie de doliprane. Il y a la surconsommation, Anaïs, mais pas seulement.
Ouais, une seule usine française produit du doliprane, l'usine Sanofi de Lisieux, et son fonctionnement est fortement perturbé en raison d'un mouvement de grève. Les salariés sont mobilisés pour demander des augmentations de salaire, mais selon la direction, le mouvement social n'affecte pas la production de ce médicament destiné aux enfants.
Mais alors dites-nous ce matin, si vous-même vous avez été confronté à ces pénuries, notamment de doliprane pour enfants, est-ce que ça vous inquiète? Et puis plus globalement, entre la crise à l'hôpital, la vague Covid, ces pénuries de médicaments, est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir peur de tomber malade en France? On peut en débattre, hein, si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on vous attend notamment dans Apolline Matin. On va aussi parler beaucoup ce matin de l'immigration, parce que c'est le débat aujourd'hui à l'Assemblée, avec ces propositions du gouvernement, notamment le gouvernement qui propose de créer un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension, pour tous ces salariés qui aujourd'hui, il faut le dire, travaillent déjà en France, mais qui sont sans papier, notamment dans la restauration. Et ça a fait réagir Laurent, qui nous appelle de Nantes. Bonjour Laurent.
Bonjour Charles, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Comment ça va Laurent? Qu'est-ce que vous faites réveiller de si bonne heure d'abord?
Il faut bien aller sur les chantiers.
Okay.
En fait, je travaille pour un laboratoire dans la qualité de l'air pour l'amiante, notamment.
Ok.
Mais
c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la restauration, mais si vous travaillez sur des chantiers, le BTP en général, c'est des secteurs dans lesquels aussi il y a beaucoup de sans-papiers.
Alors, je vais pas dire qu'ils sont avec ou sans papiers. Par contre, effectivement, on a une grande population étrangère, que ce soit des Afghans, des Roumains, etc., etc. Mais nous, notre métier à proprement parler, parce que j'entendais notre ami tout à l'heure, Denis, qui était livreur.
Stéphane,
qui disait que le problème venait principalement, notamment de la partie salariale. Mm-hmm. Il faut augmenter les salaires pour éviter d'avoir ce souci-là. Je suis pas forcément d'accord.
Oui, alors je vais rappeler ce que disait Stéphane pour ceux qui n'étaient pas avec nous avant 5h30. Stéphane disait la solution, c'est d'augmenter les salaires, par exemple dans la restauration. Et là, les millions de Français qui sont aujourd'hui inscrits à Pôle emploi, les personnes en situation régulière, accepteraient de prendre tous ces postes en cuisine, en salle. Si les patrons des restaurants, notamment, se tournent vers des salariés sans papier, c'est parce que c'est les seuls qui acceptent les boulots pénibles.
Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête de ne penser qu'à la restauration quand on parle de métier pénible. Je suis d'accord que c'est un super bon exemple, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, moi je prends mon job à moi aujourd'hui où j'essaye de recruter quelqu'un depuis plus de 3 mois maintenant, où je suis en contact avec tous les sites possibles de la Terre entière, avec Pôle emploi, etc. pour recruter. Je n'arrive pas à recruter. J'ai reçu des personnes en situation régulière, de nationalité française, tout ce que vous voulez, machin, je m'en fous. C'est des gens qui ne veulent plus travailler. Et aujourd'hui, je me dis, y a des gens qui peuvent être en situation irrégulière, qui ont envie de travailler, qui se disent, tiens, si je peux travailler pour avoir un titre de séjour, moi, je suis le premier à signer. Alors, avec des conditions, en se disant, il faut que la personne, elle me donne au moins un an de temps de travail, parce que autrement, c'est trop facile de se faire régulariser au travers d'un contrat de travail. Mais à un moment donné, je pense que le vrai problème, il vient pas des salaires. Il vient pas de tout ça. Il vient juste du fait qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on donne tellement d'aide, qu'on est tellement en train de faire en sorte d'assister les gens.
Oui, mais Laurent Bassis, on en revient au salaire à ce moment-là. Si le poste que vous proposez, le salaire était 10, 20% plus élevé, est-ce que vous n'auriez pas moins de difficultés à recruter quelqu'un, un Français ou quelqu'un en tout cas en situation régulière?
Sincèrement, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, en fait, c'est la nature du boulot, le fait de devoir se lever tôt, de faire des kilomètres, et à un moment donné, au moins donner un peu de temps par rapport à ce qu'on paye ces gens-là. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus un problème de salaire. Aujourd'hui, on a augmenté les salaires, mais de toute façon, c'est simple. On avait fait un débat, Charles, j'étais passé avec vous il y a 6 ou 7 mois de ça par rapport à partir de quel salaire on est riche en France.
Oui.
Refaites le débat aujourd'hui avec tout ce qui est inflation, prix du gasoil, etc. Je pense qu'on n'est plus à 3 257 € pour être riche, hein. À mon avis, faut être à 4 005. Donc aujourd'hui, c'est plus un vrai problème de salaire. Aujourd'hui, on est sur un problème où les gens, il faut juste qu'ils aient envie de sortir de chez eux. Et on ne passe pas forcément que par le salaire, à un moment donné.
Et c'est un problème de motivation, en tout cas, d'envie de bosser. Et ça, pour vous, vous dites, je le trouve plus facilement auprès d'une main-d'œuvre étrangère, pour ne pas dire sans papier, Laurent.
Et on va dire ça comme ça, effectivement, parce que je pense que c'est des gens qui ont juste envie de. Alors, je ne vais pas le dire vulgairement, mais qui ont juste envie de bosser et de donner un petit coup de pied au derrière.
Et donc mais le message est passé, Laurent, et du coup ça fait sens pour vous cette idée de régulariser des gens qui, comme vous le dites, ont envie de bosser, surtout dans des filières en tension où vous galérez depuis des mois pour recruter de la main d'œuvre. C'est votre position, Laurent, ce matin. On va voir si tout le monde la partage au 32-16. En tout cas, on vous remercie d'être venu la défendre ce matin, d'être venu témoigner en direct sur RMC. Ce débat, on va continuer à l'avoir avec vous en toute liberté ce matin sur RMC. Je vous signale, justement, du côté du secteur de la restauration, Franck Delvaux, qui est le responsable de l'UMI en Île-de-France, les restaurateurs d'Île-de-France, sera avec nous juste après 6h, justement pour défendre cet appel lancé par les restaurateurs pour régulariser tous leurs salariés sans papier aujourd'hui, qui sont déjà dans leur cuisine et dans leur salle. À 5h49 sur RMC, deux hommes viennent de nous rejoindre en studio. Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, ton nouveau meilleur ami, cette intelligence artificielle qui a réponse à tout.
Ah oui, je vais vous présenter l'innovation qui m'a le plus impressionné depuis très 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 longtemps, et vous allez tous pouvoir la tester, parce que c'est gratuit.
Eh ben, on a hâte de tester ça dans un instant sur RMC. Et puis Anthony Kaczmarek remplace Arthur ce matin. Bonjour Anthony.
Bonjour Charles.
Ton histoire du jour.
Eh bien, on part dans un village du Vaucluse qui craint l'arrivée des extraterrestres.
Ah, suspense, est-ce qu'ils vont arriver ou pas? Anthony a la réponse dans un instant. 5h52 sur RMC, on fait le point sur les trois infos à la une, Anaïs.
On passe à la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui piétine. Le ministre de la Santé a renouvelé son appel à la responsabilité hier. Il affirme que seuls 20% des plus de 80 ans ont reçu la quatrième dose et 35 à 45% des 60-80 ans. C'est insuffisant, dit-il, force est de constater que de nombreux Français ne sont pas pressés.
Je vais la faire vraiment s'il y a une neuvième vague importante. Si ça se calme, je le ferai pas.
Norman Tavo, la star de YouTube, placé en garde à vue, il est soupçonné de viol et de corruption de mineurs. Et puis le Brésil a écrasé la Corée du Sud 4-1 hier au Mondial de foot. Les Brésiliens vont jouer en quart contre la Croatie. La Croatie qui l'a emporté contre le Japon en tir au but hier après-midi. À suivre aujourd'hui, je vous donne le programme. Maroc-Espagne, 16h et Portugal-Suisse à 20h.
Et à 5h52, tu me donnes le programme, de la journée. Je te donne le programme du futur. C'est Anthony Morel qui l'a.
C'est déjà demain.
Avec Anthony, donc, qui est impatient de nous présenter cet outil technologique qui rend fou les internautes depuis quelques jours. Alors, je vais mal le prononcer. ChatGPT.
GPT, si on veut le prononcer en français. C'est pas très élégant, mais moi je l'ai francisé. C'est pas grave.
Je t'ai laissé le dire tranquillement. Une intelligence artificielle à laquelle on peut demander. C'est une intelligence artificielle à laquelle on peut demander n'importe quoi et qui a réponse à tout. Et elle est plus forte que Google ou Wikipédia.
Ah oui, mais il faut le tester pour le croire. Et vraiment, allez-y. Donc tapez un chat GPT et vous allez pouvoir le tester gratuitement. Ça prend la forme d'un chatbot. Vous savez, ce sont ces agents conversationnels, une boîte de dialogue en fait à laquelle on peut poser des questions et qui va y répondre dans un langage complètement naturel en allant chercher dans une base de données gigantesque. Et les résultats sont d'un réalisme et d'une précision absolument dingue. Je vous donne quelques exemples concrets. L'une des premières applications auxquelles ont pensé les internautes, c'est aider à faire les devoirs. Alors c'est assez terrible pour les profs, ça va être un cauchemar je pense. Vous lui soumettez un sujet de dissertation de philo, une rédaction, un problème de maths, il fait le boulot en deux secondes. Il va vous écrire un texte cohérent de A à Z. Je lui ai proposé par exemple les derniers sujets du bac philo de l'an dernier, discuter à se renoncer à la violence, et ben il vous pond un essai tout à fait correct en l'espace de quelques secondes.
Ouais,
impossible de savoir que t'as copié. C'est-à-dire que tu lui reposes la même question deux minutes après, il va te pondre un autre essai avec des arguments, des contre-arguments.
D'accord, c'est nos enfants incroyable. Ont travaillé, quoi.
Alors c'est ça qui est assez terrible. D'autant que cette intelligence artificielle, elle fait aussi preuve de créativité. Tu peux lui demander d'imaginer par exemple une fin alternative à la série Game of Thrones. Il va te réécrire la fin en prenant en compte les personnages, leurs caractères.
Il a de l'imagination.
Et tu peux lui demander aussi, il va s'adapter à la personne qui parle. Tu lui demandes, explique-moi comment on fait les bébés à un enfant de 4 ans. Et il va te le faire comme s'il parlait à un enfant de 4 ans.
Il fera pas la même réponse à un adulte de 35
Exactement.
Ans.
Exactement. Et tu peux même lui demander de faire des parodies, d'imiter le style de, par exemple, je lui ai demandé.
Il a de l'humour.
Alors voilà, de réécrire la Marseillaise en l'adaptant pour le match France-Angleterre. Je vous propose, voilà, donc, allons enfants de la patrie, le footballeur en nous est né. Sur les terrains contre l'Angleterre, nous allons en guerre. Aux armes citoyens, formons la garde d'honneur contre l'Angleterre. Marchons, marchons. C'est pas mal quand même. Pour une machine, c'est assez bluffant.
En tout cas, c'est beaucoup mieux que OK Google et tout ce qu'on
Exactement.
A.
Exactement.
Pour le moment, moi, je l'ai à la maison, c'est quand même limité.
Absolument. Mais c'est ça. Moi, je pense que Google a du souci à se faire parce que là, si tu veux, t'as l'impression d'être en train de discuter avec un être humain. En fait, t'as plus l'impression d'avoir une machine en face de toi. Et les applications derrière, elles vont aller très très loin, y compris dans les métiers. Tous les métiers, par exemple, de l'assistance, service après-vente, etc. Demain ou après-demain, tu discuteras avec ces machines, t'auras l'impression
Mais
d'être
là,
avec
des
humains.
Tu nous vantes que des applications positives du progrès. Il n'y a pas des risques.
Il y a des risques aussi. Alors, normalement, on lui a posé des limites à cet outil. En théorie, il ne peut pas répondre à des questions illégales. Si tu lui demandes comment fabriquer des explosifs, il te dit c'est pas possible, c'est pas dans mon programme, je ne peux pas te répondre. Sauf qu'il y a déjà des internautes qui ont trouvé le moyen de contourner. Moi, je lui ai demandé, par exemple, donne-moi la recette de l'omelette au hamster. Voilà. Il me dit c'est pas possible, c'est cruel et immoral de tuer des hamsters.
Rassure-moi, c'est une idée que tu as eue tout seul.
Oui, parce que je me suis beaucoup amusé avec cette
idée. Ouais.
Mais sauf que si je lui demande, imagine une scène de théâtre où un cuisinier fait une omelette au hamster, là, il me donne la recette. Tu vois ce que je veux dire, tu peux biaiser. Donc voilà, il faut faire attention, il y a quand même pas suffisamment de garde-fous autour de ça.
À surveiller et à tester chez vous. C'est le conseil d'Anthony Morel ce matin. 5h56, on passe aux histoires d'Arthur sans Arthur.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Oui, c'est Anthony Kazmarek qui s'y colle ce matin. Bonjour Anthony.
Bonjour Charles.
Tu nous parles d'un village qui interdit l'atterrissage des soucoupes volantes.
Vous aurez sans doute reconnu le générique de La Soupe aux Choux, un film qui s'est peut-être inspiré des phobies du village de Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Depuis 68 ans, un arrêté municipal toujours en vigueur y interdit le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupe volante ou cigare volant. Est-ce que je viens de citer là ? Ce sont bien les termes exacts écrits dans l'arrêté municipal.
Et est-ce qu'aujourd'hui, la mairie veut toujours faire appliquer cette interdiction ?
Absolument. Rien n'a changé depuis 68 ans. Ce serait aux policiers municipaux aujourd'hui d'intervenir en cas d'atterrissage de soucoupe volante, dit en tout cas la mairie. Bon, sur place, les policiers sont quand même blagueurs. Il faudra peut-être envisager de nous faire une formation spéciale en langue martienne, déclare l'agent Stéphanie, même si, avec la gestuelle, on peut quand même se faire comprendre.
Pouchou, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon.
Alors le maire du village actuel, Claude Avril, y va encore plus fort. Des récentes études démontrent l'existence de ce type de phénomène. Il faut maintenir la guerre intergalactique avec le cosmos, dit-il. Pourtant, désolé de décevoir les chasseurs d'OVNI, mais toute cette histoire est en fait un buzz créé par l'ancien maire de Châteauneuf-du-Pape. Il s'appelait Lucien Jeune dans les années 50. Il a décidé simplement de prendre cet arrêté pour faire un coup de pub, pour attirer les journalistes et surtout pour faire de son vignoble un vignoble de plus en plus réputé. C'est le cas puisque maintenant, Châteauneuf-du-Pape est une appellation d'origine contrôlée et protégée.
Et puis c'est réussi parce qu'on en parle encore ce matin. Donc voilà, un buzz générationnel de cette interdiction des soucoupes volantes à Châteauneuf-du-Pape. 5h58 sur RMC. Le journal approche, mais vous reconnaissez la petite musique, c'est l'heure de l'info bonus d'Anaïs avec les Red Hot Chili Peppers, de retour en France l'année prochaine.
Oui, le groupe de rock californien qui a dévoilé deux albums cette année repart en tournée après le Stade de France l'été dernier. C'est à Lyon et en Bretagne qu'ils vont s'arrêter. Ils vont donner un concert au Groupama Stadium de Lyon le 11 juillet. Ils seront Vieille Charrue aussi le 17 juillet. Les billets pour les deux dates seront mis en vente vendredi.
Un bon petit Red Hot de bon matin, ça fait du bien. Vous êtes sur RMC, vous avez donc noté l'info hein, dans votre agenda. Vendredi, pour acheter les billets, pour voir les Red Hot en concert en 2023 en France. Mais l'info du jour, bah c'est le froid. Géraldine de Mori. Tiens, on garde les Red Hot pour la météo, ça va nous réchauffer un peu.
Ça va nous réchauffer, oui, parce que là, c'est, je vais refroidir l'ambiance. Avec pas mal de gelée ce matin, on a moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 8 même du côté du Puy-en-Velay, moins 2 à Lyon. Cet après-midi sur la moitié nord, entre 4 et 6 degrés, donc c'est bien en dessous des normales de saison. Sur la moitié sud, c'est un petit peu plus dans les normales, 10 degrés à Bordeaux, il fera 13 à Marseille, Biarritz, Perpignan, 18 même pour Ajaccio, avec un temps très gris hein, sur la moitié nord. Beaucoup de grisailles jusque sur le Lyonnais. Attention, on a des routes qui peuvent être localement verglacées. Quelques averses vers la Manche et puis le soleil qui arrivera quand même sur la moitié sud. Très peu d'évolution pour demain. Jeudi, très gris encore, mais avec de la pluie, des Pyrénées à la Méditerranée. Les températures qui vont encore baisser. Vendredi, ce sera pluvieux du sud-ouest à la Méditerranée et aux frontières de l'Est. Et puis vraiment, il va faire très froid ce week-end. Moins 2 degrés de moyenne le matin sur la moitié nord, mais avec de plus en plus d'éclaircies.
Mardi 6 décembre,
l'info sur RMC.
Il est 6h, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, c'est l'heure de votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous, le youtubeur Norman Tavo en garde à vue toujours ce matin dans une enquête pour viol et recel de mineurs. La menace des syndicats prêts à se mobiliser en janvier si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites. Et le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde, 4 buts 1, c'était facile contre la Corée et Neymar a même marqué.
Le youtubeur aux 12 millions d'abonnés, Norman Tavo, a passé la nuit en garde à vue.
Vous avez forcément entendu parler de lui, même sans être un adepte de ses vidéos. C'est un des premiers Français à avoir percé, comme on dit, sur YouTube. Et le voilà donc soupçonné de viol et de corruption de mineurs dans une enquête ouverte il y a un an après le signalement d'une Canadienne. Nicolas Traîneau pour RMC, on parle là de 6 plaignantes, 6 jeunes femmes, voire jeunes filles.
C'est la fin de l'omerta, a réagi hier une youtubeuse après des années de rumeurs à l'encontre de Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, pointé du doigt depuis 2018 lors du mouvement Balance ton youtubeur. Les accusations sont formalisées en 2020 avec la plainte d'une très jeune fan canadienne, Maggie. Elle lui reproche d'avoir profité de sa notoriété star de YouTube, suivie par près de 12 millions d'internautes, pour lui demander des photos d'elle nue. Elle avait 16 ans, lui en avait 30. Sa prise de parole vidéo sur un média canadien a permis de recueillir le témoignage de 5 nouvelles plaignantes pour des faits de corruption sur mineurs comme elle et de viol, ce qui a entraîné cette garde à vue. Enfin, se félicite Maggie sur Facebook. Je n'en crois pas mes yeux. Elle doit être confrontée à Norman Tavo devant les enquêteurs ces prochains jours. La société Webedia, gros partenaire commercial du vidéaste, a précipitamment suspendu sa collaboration avec lui hier.
Je vous signale que la vaccination pour la deuxième dose de rappel du Covid est bel et bien ouverte à tous. Elle n'est plus réservée aux personnes fragiles depuis la mi-novembre. C'est une précision ce matin sur RMC. Précision qui mérite d'être faite à l'approche des fêtes de fin d'année car beaucoup de professionnels de santé dénoncent un manque de clarté dans les consignes du gouvernement. La preuve, écoutée avec Kevin Gasser pour RMC.
La possibilité de se faire vacciner une quatrième fois, ce n'est pas rentré dans toutes les têtes.
Non, je n'étais pas au courant.
Là, c'est pour une nouvelle dose de rappel, parce que je ne sais plus combien il y en a eu.
Même informé, Vincent n'en ressent pas l'urgence tant que ses proches fragiles sont, eux, vaccinés.
Je vais la faire vraiment s'il y a une neuvième vague importante. Si ça se calme, je ne le ferai pas.
D'autres pointent le manque de communication du gouvernement.
Je ne sais pas précisément comment faire si je souhaite faire une quatrième dose.
En fait, il pourrait y avoir un rappel via l'application. C'est bon, vous pouvez faire votre dose. Je pense que c'est assez facile à mettre en place.
Autre frein à la vaccination pour tous, l'exemple de cette pharmacienne qui applique encore de vieilles consignes.
Bah, si elle n'est pas dans le cadre, on ne la vaccine pas. Sur Doctolib, j'ai appelé et je leur ai dit que je ne pouvais pas les vacciner.
Alors que le gouvernement nous expliquait hier que la vaccination était ouverte à tous, y compris les moins de 60 ans. D'ailleurs, la demande est bien là, constate le médecin André Seba.
Et les prises de rendez-vous explosent depuis une petite dizaine de jours.
Mais il lui arrive aussi de refuser la vaccination pour des personnes qui n'entrent pas dans les critères.
La vaccination sert à protéger les formes graves. On n'est plus dans une stratégie de diminuer la transmission du virus. Donc une vaccination vaccination générale pour maintenant.
Le généraliste vaccine pour l'heure une dizaine de personnes de moins de 60 ans par jour, avec un approvisionnement en doses de vaccins déjà en tension.
Les pharmaciens alertent sur un manque de Doliprane, les formules pour les enfants qui se vendent dans les boîtes roses, notamment conséquence des tensions sur la molécule, le paracétamol, dans cette période de triple épidémie, avec en plus des grèves sur les salaires en ce moment chez le fabricant Sanofi. La mise en garde des syndicats, je vous le disais, absolument tous les syndicats prêts à se mobiliser en janvier, ça promet si le gouvernement maintient sa réforme des retraites. Et ça a l'air d'en prendre le chemin. Il se réunissait hier, Victor Jeannin, pour RMC, pour préparer la riposte et donc dire non à la retraite à 65 ans.
Oui, plusieurs confirmations après cette réunion. Premièrement, pour la première fois depuis 2010, tous les syndicats sont sur le front, y compris le syndicat le plus apte au compromis. La CFDT, très offensive, elle appelle comme tous les autres à descendre dans la rue contre une réforme jugée injuste et inutile. Deuxièmement, il n'y aura non pas une, mais plusieurs journées de grève dès début janvier. Les centrales syndicales ne veulent pas se faire prendre de vitesse par le gouvernement qui souhaite voir le projet de loi adopté au printemps. Leur objectif est de taper vite et fort en attisant la grogne déjà présente chez les Français à cause des problèmes de pouvoir d'achat et d'énergie. La réforme des retraites est l'étincelle qui peut déclencher un conflit social majeur, prévient une responsable de la CGT.
Appel à la grève préventive aujourd'hui chez RTE qui gère les lignes à haute tension en France, là aussi sur les salaires. Les syndicats veulent une hausse d'environ 7% quand la direction leur propose un peu plus de 2%.
RMC, Coupe du monde de la FIFA 2022.
Le Brésil, impressionnant hier soir, hein, victoire 4-1 contre la Corée du Sud. Neymar a rejoué, il a même marqué sur pénalty. Les Brésiliens qui tomberont en huitième de finale, contre la Croatie, qui est allée jusqu'au tir au but pour se qualifier contre le Japon. Il y avait un partout après la prolongation, donc on aura un quart entre le Brésil et la Croatie. On connaîtra les deux derniers qualifiés pour les quarts aujourd'hui. Portugal contre la Suisse à 20h et avant cela, l'Espagne contre le Maroc. Ce sera dans l'après-midi à 16h. Ce sera pas un match comme les autres dans l'enclave espagnole de Melilla au Maroc, où ce sera du 50-50. C'est ce que nous dit Mo Becker-Gagné, l'envoyé spécial de RMC.
Depuis plus de 40 ans, Najib vit sur ce petit territoire espagnol, mais jamais il n'a voulu en prendre la nationalité. Alors cet après-midi, son cœur battra bien pour les Lions de l'Atlas.
Je suis avec le Maroc parce que c'est à l'intérieur de moi.
Mais dans cette famille de commerçants, le père est seul contre tous. Sa femme et ses 5 enfants sont pour l'Espagne une évidence pour Osama, l'un de ses fils.
C'est là où je vis, c'est là où je côtoie les gens. Je préfère l'Espagne, c'est ma nationalité.
Et dans le petit kiosque qu'ils tiennent en famille face à la mer, tous les clients ont le droit au pronostic du patron.
Le Maroc va gagner 3-1.
Allez, Maroc.
Pronostic loin d'être partagé par son fils. Et pourtant, tout à l'heure, c'est ensemble qu'ils passeront à pied la frontière à seulement 3 km de leur magasin pour aller suivre le match au Maroc.
Il y a une meilleure ambiance là-bas, plus de monde. J'irai avec mon drapeau de l'Espagne au milieu de tous ces Marocains. Au pire, ils me tuent, hein, mais moi, je soutiendrai l'Espagne plutôt que mon pays d'origine.
Dernière question du fils. Est-ce que si l'Espagne élimine le Maroc, tu soutiendras les Espagnols? Et la réponse est oui. Une certitude donc avant le match au prochain tour. Père et fils porteront le même maillot.
Et puis des nouvelles de nos Bleus, c'était relâche hier pour l'équipe de France. Pas d'entraînement, pas de conférence de presse non plus. Olivier Giroud a passé du temps en famille au bord de la piscine de l'hôtel. Kylian Mbappé lui a passé une partie de sa journée avec Ousmane Dembélé.
Ah bon, c'est vraiment tout. Avec Quentin Ginet, toutes les infos précises. Les infos RMC avec tous nos reporters mobilisés pour cette Coupe du Monde. Et puis évidemment, on retrouve Quentin tout à l'heure à 7h pour un nouveau journal. Ce sera dans Apolline Matin. Et oui, Apolline Matin, ça démarre dans moins d'une demi-heure avec Apolline en direct sur RMC et tout à l'heure à la télé aussi, hein, sur RMC Story, le canal 23 de la TNT à 6h07. Vous le savez, bah, c'est déjà Noël.
Oserez-vous ouvrir le coffre de Noël ?
Eh oui, le coffre de Noël est là tout le mois de décembre. Des très beaux cadeaux à gagner sur RMC. Et ce matin, c'est Denis qui est avec nous. Bonjour Denis.
Bonjour.
Bonjour Denis.
Comment ça va Denis ce matin ?
Très bien.
Levé tôt pour le boulot, c'est le début de la journée,
oui,
pour vous là ?
Oui, je suis sur la route.
Sur la route du boulot, et vous avez joué, vous avez envoyé coffre par SMS au 732-16, vous avez été sélectionné, et je peux déjà vous le dire, Denis, vous avez gagné. Vous avez gagné la toute dernière Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart 8 et deux volants de Switch qui vont avec. Voilà, un très beau cadeau, une super console. Mais attention Denis, cette console que vous venez de gagner, vous pouvez la remettre en jeu. Mais oui, vous pouvez la remettre en jeu et donc ouvrir le coffre RMC, le coffre de Noël. Et à l'intérieur du coffre, il y aura soit la PlayStation 5, soit la PlayStation Classic Mini. Vous savez, la toute première PlayStation qui ressort en version mini. Il y aura peut-être même dedans la tirelire du Père Noël. Il y a des sous jusqu'à 2500 euros. Bref, Denis, je vous pose la question, est-ce que vous remettez votre Switch en jeu ? Est-ce que vous osez ouvrir le coffre de Noël ?
On va oser.
On va oser. Alors c'est parti. Je compose. Hop, la combinaison. En même temps que je vous parle, Denis, j'ouvre le coffre à l'intérieur. Oula, il y a plein de choses. Alors attendez. Ah. On commence par la boîte dans laquelle se trouve. Ne quittez pas, Denis. La PlayStation Classic Mini. La toute première, elle est très jolie. Elle est vintage. Voilà, pour ceux qui l'ont connue, ça fait plaisir de la revoir. La toute première PlayStation en version mini. Mais attendez, il y a aussi la chaussette du Père Noël. Alors attendez. Je glisse ma main dans la chaussette. En même temps que je vous parle, Denis, vous êtes toujours là, Denis?
Bien, oui, je suis là. Ouais.
Et ben, il y a aussi un petit chèque de 500 euros qui vient de tomber. Voilà, c'est le Père Noël RMC qui vous offre un chèque de 500 euros. Oui, je le montre, tout le monde me regarde, mais oui, voilà, il y a ce chèque RMC. Oui, il y a écrit de la part de l'émission Charles Matin, carrément. Ah bah oui, il est magnifique. Je le découvre en même temps que vous, Denis. Ils sont pas pour moi, les 500 euros, ils sont pour vous, mais je suis presque aussi ému que vous, je pense, Denis, de vous les offrir.
J'en tremble presque.
Ouais, on vous envoie les 500 euros, la PlayStation Classic Mini, c'est pour vous, ça part dans le Haut-Rhin, c'est ça, Denis? Vous êtes dans le Haut-Rhin.
C'est exact, ouais.
Et bon, on vous envoie tout ça, voilà, une journée de boulot qui commence bien, Denis.
Super bien, même.
Et bon, très bien même. Bonne route.
Et bonne journée, ouais. Et bonne fête surtout.
Et bah oui, bonne fête. Profitez-en pour vous faire plaisir, pour gâter vos proches. Ne quittez pas Denis, on prend vos coordonnées hors antenne, on vous envoie tous vos cadeaux, le chèque, la PlayStation, tout ça c'est pour vous. Et le coffre revient. Vous pouvez vous inscrire en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Prochain gagnant dans quelques minutes là, dans Apolline Matin, en direct sur RMC. Allez, à 6h09. Anaïs, on regarde la suite du programme. Avant 6h30, on aura nos rendez-vous. L'économie avec Emmanuel Le Chypre, notre story Coupe du Monde avec Cédric Dandeville. Mais tout de suite,
on va parler immigration parce que le gouvernement présente cet après-midi, dans les grandes lignes à l'Assemblée, ses propositions en matière d'immigration. Un nouveau titre de séjour pour les métiers en tension pourrait être créé, alors que de plus en plus de secteurs peinent à recruter, notamment la restauration, où les patrons appellent à une régularisation des salariés étrangers.
On va en parler avec Franck Delvaux, le président de l'UMI en Ile-de-France, le syndicat des patrons de l'hôtellerie-restauration. Il est tout de suite en direct avec nous sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna. Charles Magnin.
Il est 6h12. Bon réveil à tous.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Franck Delvaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UMI Île-de-France. Alors l'UMI, je vais le rappeler, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. C'est donc le syndicat des patrons de l'hôtellerie-restauration. Et le gouvernement présente cet après-midi ses propositions en matière d'immigration. Et dans ce contexte, votre nouveau président au niveau national, Thierry Marx, a lancé un appel à la régularisation des sans-papiers qui travaillent aujourd'hui dans vos restaurants. Concrètement, Franck Delvaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui auraient du mal à tourner sans ces travailleurs en situation irrégulière.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre métier, on a environ 200 000 emplois de disponibles, là tout de suite, au moment où je vous parle. Et à côté de ça, nous avons inscrit à Pôle emploi 50 000 personnes, là ce matin, qui ont le profil cuisinier, et 40 000 personnes qui ont le profil serveur. Ça fait environ 100 000 personnes inscrites à Pôle emploi, là tout de suite, qui peuvent travailler en restauration. Par rapport à nos 200 000 emplois disponibles, il y a donc un souci d'adéquation. Ensuite, concernant les faux papiers, ce qui veut dire, ce sont des vrais faux papiers. Évidemment, nous n'embauchons pas dans nos affaires des personnes qui ne sont pas en règle au niveau de leurs papiers. Par contre, vous pouvez avoir quelqu'un qui a des vrais faux papiers au moment du renouvellement de ses papiers. Eh bien là, évidemment, il ne pourra pas renouveler. Et c'est là où on doit avoir un titre de séjour temporaire ou pour des personnes qui viennent nous voir, qui veulent travailler, avoir vis-à-vis de la préfecture un titre de séjour temporaire assez rapide.
Oui, il y a une zone grise, mais il y a une remarque qui revient depuis ce matin, on en parle au 32-16 avec nos auditeurs, il y a une remarque qui revient souvent, c'est mais il suffirait d'augmenter les salaires pour que les Français aient envie de pourvoir ces métiers, de bosser dans vos restaurants.
Alors ça, on l'a fait. on l'a fait depuis le 1er avril de cette année. On a augmenté en moyenne de 16% les salaires en hôtellerie et restauration, ce qu'on appelle sur notre grille des métiers, et notamment avec des augmentations assez fortes sur les niveaux les plus experts. Rappelons aussi que dans nos métiers, l'ascenseur social ou l'échelle sociale, comme on veut, fonctionne très bien puisque c'est dans des métiers où on peut progresser très vite.
Et pour qu'on soit clair, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, quand vous embauchez quelqu'un, alors, ou en tout cas que vous conservez quelqu'un qui est, alors pas forcément en situation irrégulière, vous nous le dites, mais qui a du mal à renouveler ses papiers, il y a des zones grises en tout cas, vous n'y gagnez pas d'argent, vous payez des charges quand même. Même un restaurateur qui aurait des salariés sans papier, pour le dire clairement, paye des charges, il ne gagne pas d'argent, ça ne lui coûte pas moins cher qu'un salarié en règle.
Tout à fait, c'est ce que je appelle des vrais faux papiers. C'est-à-dire quelqu'un qui est embauché avec des vrais faux papiers.
Il est déclaré, non mais ce que je veux bien faire, c'est
bien
la différence avec le travail au noir.
Déclaré,
je veux bien expliquer ça, il ne s'agit pas de travail au noir, il y a des cotisations payées, ces gens sont déclarés.
ils sont déclarés. Il y a ce qu'on appelle une déclaration préalable à l'embauche. Mais sinon, si vous embauchez quelqu'un qui n'est pas déclaré, vous n'êtes pas dans la légalité. Et en cas de contrôle de l'URSSAF ou d'autres organismes, vous pouvez avoir de gros problèmes qui peuvent aller jusque la fermeture de votre établissement.
Et donc,
ces gens sont déclarés.
Et ce que voudrait mettre en place le gouvernement, c'est un titre de séjour spécifique d'une durée d'un an environ. Tous les détails restent à négocier, mais spécifiquement pour ce qu'ils appellent les métiers en tension. Vous, ce que vous demandez, c'est que votre métier, la restauration et l'hôtellerie, soit classé parmi ces métiers en tension.
Oui, tout à fait. Vous savez, on a eu bientôt notre congrès. On a eu notre congrès il y a quelques jours. Et on avait la présence de la ministre Olivia Grégoire qui a bien reconnu que nous étions une profession en tension. Donc on ne pourrait pas comprendre qu'on ne soit pas dans la liste des métiers en tension pour ce nouveau titre de séjour temporaire.
Mais vous entendez bien que ça crée une controverse politique, pour le dire poliment. Par exemple, ce matin, tout à l'heure, à 8h10, sur RMC, sera invité Franck Alizio. Il est député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Et lui, il dit, si on se lance dans ces régularisations, dans ces titres de séjour, c'est accepter l'illégalité. Il dit, il faut donner la priorité aux 5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et pas régulariser des sans-papiers. Ça pourrait créer un appel d'air, dit-il. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
Je lui réponds tout simplement que s'il va sur le site Pôle emploi ce matin, moi je l'ai fait, il y a 90 000 personnes inscrites à Pôle emploi et qui ont déclaré qu'ils pouvaient travailler immédiatement en restauration. Mmh. Écoutez, nous on les attend, on est prêts à les embaucher en contrat à durée indéterminée, il n'y a aucun problème.
Mais il en manquera toujours, c'est ce que vous dites, et pour ceux qui manquent, il faut se tourner vers l'immigration.
Il en manquera toujours, vous avez aujourd'hui beaucoup de restaurants qui sont obligés de fermer un ou deux jours par semaine, des restaurants qui sont obligés de fermer plus tôt, qui réduisent leur capacité. Donc, on ne peut pas continuer comme ça.
Merci Franck Delvaux, président de l'UMI en Ile-de-France. Hein, l'hôtellerie-restauration, vous êtes le représentant en Ile-de-France, mais vous relayez quelque part le message de Thierry Marx, le nouveau patron de l'UMI. C'est son appel au gouvernement et vous êtes venu le faire ce matin sur RMC en direct. Tout à l'heure, donc, je le disais, Franck Alizio, le député RN des Bouches-du-Rhône, sera aussi l'invité d'Apolline de Malherbe pour qu'on entende tous les points de vue sur cette question, évidemment. Et puis ce débat cet après-midi à l'Assemblée autour des questions d'immigration et donc cette question des métiers en tension, des titres de séjour, de la régularisation des travailleurs sans papier. On va continuer à en débattre avec vous ce matin au 32-16. Je vous remercie Franck Delvaux d'être passé de bonne heure par RMC à 6h17. Vous avez deux rendez-vous que vous attendez, je le sais, de bonne heure. C'est Emmanuel Le Chypre et son Chypre du jour dans un instant pour parler économie. Et puis on va partir au Qatar, la Story Coupe du Monde. Ce sera dans un instant avec Cédric Dandeville sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
6h20 sur RMC, place à l'économie.
Le Chypre du jour.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Le Chypre du jour, c'est 630 euros.
Oui, c'est le coût moyen aujourd'hui d'une assurance automobile, nous dit le comparateur de prix Assureland, ce qui correspond à une augmentation de 3%, augmentation qu'on peut juger plutôt modérée au vu de l'inflation, puisque c'est deux fois plus faible que l'inflation qui dépasse 6%, et la revalorisation ne devrait pas être beaucoup plus élevée l'an prochain, toujours autour de 3%, alors que l'inflation globale, elle, avoisinera toujours encore 5%. Donc, pas de problème pour les assureurs pour respecter la promesse faite à Bercy. Rappelez-vous, en septembre, Bruno Le Maire avait réuni les banquiers, les assureurs, pour leur demander des efforts. Eh bien, les assureurs respecteront sans problème cette promesse, sauf que ça n'est pas vraiment à cause de cette promesse qu'ils affichent des hausses de prix si modérées, c'est que la concurrence est intense entre les compagnies d'assurance.
Pourtant, les assurés vont leur coûter de plus en plus cher.
Oui, effectivement, il y a pas mal de nuages à l'horizon. Il y a d'abord le coût des pièces détachées et des réparations qui ont augmenté respectivement de 10 et 3,5% sur un an. Il y a les accidents climatiques, hein, les épisodes de grêle de plus en plus nombreux qui endommagent de nombreux véhicules. Il y a aussi l'envolée des prix des voitures d'occasion, plus 20% sur un an. Or, il faut rappeler qu'un expert automobile se base sur la cote Argus des voitures d'occasion pour déterminer la valeur de remplacement d'une voiture accidentée. Et puis quand même, rappelons que modération, mais pas pour tout le monde, puisque les jeunes prennent quand même un sacré coup de bambou, plus 18% pour leur prime à 1 255 €. C'est trois fois plus que pour les plus de 55 ans.
Ouais, donc hausse modérée, on va le dire comme ça.
En moyenne, oui.
Des assurances auto pour cette année. Merci beaucoup Emmanuel, il est 6h22, on file au Qatar.
La story de la Coupe du Monde.
Bonjour Cédric Dandeville.
Salut à tous.
Après le Brésil et la Croatie hier soir, le Portugal va tenter de décrocher son ticket pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ce sera ce soir face à la Suisse. Et pour battre la Suisse, les champions d'Europe portugais vont compter sur Cristiano Ronaldo ou pas.
Mal aimé, je suis le mal aimé.
Mal aimé
par ses propres supporters. Selon un sondage, 70% des Portugais ne veulent pas de Ronaldo titulaire contre la Suisse. Un crime de lèse-majesté qui ne serait pas une aberration pour notre consultant Eric Dimeco.
Ça doit être dur de mettre Ronaldo sur le banc. Mais je me pose la question de savoir si le Portugal serait pas meilleur sans lui. Je n'ai pas la réponse.
Ah, il faut dire que depuis le début du mondial, le niveau de jeu de Ronaldo est inquiétant. Son état d'esprit aussi. Lors du dernier match de groupe vendredi contre la Corée du Sud, la star de 37 ans est sortie du terrain très agacée. Une attitude qui ne plaît pas du tout à son entraîneur.
Sans déconne, Gélan.
Je suis choqué.
Comment tu n'arrêtes pas de chialer?
Je suis choqué.
Je n'ai pas aimé du tout. Voilà ce qu'a vraiment dit le sélectionneur portugais hier devant la presse. Un recadrage en public. De quoi piquer un peu plus l'ego de Ronaldo, déjà bien esquinté par ses déboires à Manchester United. D'ailleurs, depuis la rupture de son contrat avec le club anglais, l'homme aux 5 ballons d'or est au chômage.
Plus pour longtemps, normalement. Ronaldo a, semble-t-il, retrouvé un employeur en Arabie Saoudite.
Ouais, du coup, bonne nouvelle pour les joueurs saoudiens. Contre l'Argentine, le sélectionneur national Hervé Renard leur avait interdit de prendre la photo avec Lionel Messi.
Messi! At the middle of the pitch, take your phone, you can make a picture with him, hein, if you want.
Et bien bientôt, ils pourront, sans se faire engueuler, faire des selfies avec Ronaldo. Car oui, selon la presse espagnole, le Portugais devrait évoluer à partir du 1er janvier dans le championnat d'Arabie Saoudite.
On est dans la vie, mille et une folies.
Et le club saoudien qui s'offre cette folie, c'est le club d'Al Nasser, basé à Riyad. Ronaldo va être accueilli évidemment comme un roi et rencontrer un certain Garcia.
6000 mètres carrés de jardin, la décoration intérieure est signée Garcia.
C'est un Jean Garcia ?
Non ?
Bah non, forcément, il n'a pas le temps. Il s'occupe de Zorro. José Garcia.
Non, Jacques Garcia, le décorateur.
Vous connaissez pas ?
Et oui, monsieur Tuche, moi je voulais surtout parler de Rudy Garcia, l'ancien coach de l'OM et de l'OL, aujourd'hui entraîneur d'Al Nasser. Le français aura donc, et oui, Charles Ronaldo sous ses ordres. L'attaquant devrait toucher, écoutez bien, 200 millions d'euros par an et devenir le joueur le mieux payé de la planète. Mal aimé peut-être, mais surtout bien payé.
Je suis
Et j'en reviens pas de ce chiffre, 70% des Portugais qui ne veulent pas voir Ronaldo sur le terrain, vraiment une star déchue en son pays, mais qui va se redorer la pilule, si j'ose dire, en Arabie Saoudite, a priori, 200 millions.
Tant qu'il se dort pas la pilule, à 200 millions, ça va.
Oui, voilà. Tout va bien, évidemment. 6h25, elle ne se dort pas du tout la pilule, non. Elle est là, de bon matin, pour être avec vous sur RMC. C'est Apolline de Malherbe qui arrive tout de suite aux commandes d'Apolline Matin.